France Culture.
Esprit de justice qui, ce soir, va se demander si l'on assiste à un retour des justiciers. La légitime défense a toujours existé, c'est même l'une des rares excuses à la violence admise par notre droit pénal en raison de l'impératif supérieur de se protéger, de protéger sa propre vie. Le droit de se défendre soi-même pour sa survie se trouve en effet au cœur du droit naturel des modernes, au centre du pacte politique même qui consiste, selon Hobbes, à déléguer ce droit naturel à se défendre à l'État en échange d'une protection plus efficace de notre sécurité par ce dernier. Mais cette délégation n'est pas générale et nous pouvons la reprendre à tout moment si l'État se montre tyrannique, c'est la question du tyrannicide, ou si l'État exerce trop mollement sa fonction de protection. C'est l'argument qui est invoqué par certains qui, aujourd'hui, prétendent non plus se défendre légitimement en cas de péril de mort, ça c'est autorisé par la loi, mais bien se substituer à l'État pour faire justice. Ce phénomène de l'auto-justice qui a toujours existé et qui ne doit pas être confondu avec la vengeance. Ce phénomène est-il en recrudescence? Certains indices pourrait le laisser penser, comme les mouvements de commerçants, notamment un mouvement qui a été très populaire, ras-le-vol, ou des expéditions punitives contre les Roms avec le soutien des élus locaux, et voire l'apparition de véritables milices paramilitaires intervenant aux côtés de la police, comme lors des émeutes à la fin du printemps 2023. Ce qui est certain, c'est que le numérique offre des instruments très puissants à tous les justiciers de la Terre, phénomène désigné par un mot nouveau, le vigilantisme numérique. Numérique, cependant, n'est pas qu'un instrument. Il n'est qu'un instrument, et peut-être nous oblige à réinventer un nouveau rapport entre les citoyens et la loi, entre les collectifs de citoyens, les osinteurs, on viendra sur cette expression, et les institutions. Eh bien, ce sont les questions qu'Esprit de justice vous propose de traiter ce soir, en compagnie de Marlène Dulaurance. Marlène Dulaurance est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Bordeaux-Montaigne. Elle est rattachée au laboratoire MICA, Médiation, Information, Communication, Art. Elle est responsable d'un DU cybercriminalité. Et surtout, elle a lancé, avec un gendarme, Jean-Christophe Federbe, le projet VIDOC, qui associe citoyens Osinter et forces de police. Et pour en parler avec elle, Pierre Rancé est journaliste et même c'est un ancien chroniqueur judiciaire qui a publié des livres, plusieurs livres sur la justice. Je pense, il y a quelques années, un livre sur les rapports tumultueux entre justice et politique, Les ennemis jurés, juges et politiques, c'est chez Robert Laffont en 2020, et il vient de publier le mois dernier un livre précisément intitulé Auto-justice, enquête sur un inquiétant phénomène qui gagne la France.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir Pierre Rancé, vous êtes à Paris, Marlène Dulaurance est, elle, à Bordeaux où elle enseigne. Alors ma première question, bien sûr pour vous Pierre Rancé, c'est en quoi consiste l'auto-justice? Vous avez enquêté longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années sur ce phénomène. Vous êtes promené dans beaucoup de tribunaux de France et de Navarre. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est que l'auto-justice?
Alors l'auto-justice, ce sont des personnes qui se font justice elles-mêmes. Ça, on est bien d'accord.
Oui.
Bon, elles se font justice elles-mêmes parce qu'elles considèrent que la justice n'en remplit plus ses missions, que la justice ne les protège pas, et notamment quand ils sont fragilisés. Beaucoup de gens m'ont dit que la justice ne protège plus les plus fragiles, aussi bien des victimes, des gens qui sont obligés de se faire justice, que des magistrats. Alors, parmi ces gens-là, il y a deux catégories. Il y a ceux qui se sont adressés à la justice et ceux qui ne s'adressent pas à la justice pour régler leur compte, sans même faire la démarche de déposer une plainte ou de saisir un service de police.
Pour tout type de délit, ça peut être des crimes graves, comme ça peut être des incivilités ou des rapports locatifs, par exemple.
Non, il n'y a pas de crime grave. Je pense que les crimes, les homicides ne font pas partie, à quelques exceptions.
Oui, c'est ça.
Il y a la célèbre affaire du petit Grégory.
Voilà. Et puis, à la fin, il y a cette affaire de Nadia que vous racontez. Mais ça, c'est assez exceptionnel, finalement.
Oui, c'est assez exceptionnel. Alors, c'est intéressant, l'affaire de Nadia, parce que c'est une dame qui est d'origine marocaine, qui habite dans une cité à Nantes, et qui part travailler un dimanche matin. Elle attend le bus à 6h30 le matin pour aller rejoindre le service hospitalier dans laquelle elle est femme de salle. Et il y a un jeune homme qui s'arrête en voiture, qui sort de la voiture et qui lui donne 23 coups de couteau. Elle meurt, évidemment. Et l'annonce de sa mort est une traînée de poudre dans le quartier.
Elle était très populaire.
Elle était très aimée.
Oui.
Et donc, deux de ses fils qui sont encore à la maison et d'autres amis font l'enquête eux-mêmes. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont persuadés que la police ne le fera pas. Et ensuite, parce qu'ils connaissent bien les lieux.
Ils n'en savent rien. Ils veulent agir.
Si, ils en savent quelque chose, parce qu'il y a des rapports assez particuliers entre les jeunes de certains quartiers et la police.
Là, on est dans un quartier sensible.
C'est pas forcément un quartier sensible, mais c'est un quartier dans lequel la police est surtout là pour faire du contrôle et pour faire de la répression. Donc ils se disent, est-ce qu'on est sûr qu'ils vont mettre tous les moyens
et
donc on le fait nous-mêmes. Donc ça agrège des gens qui vont faire une enquête au risque, et d'ailleurs c'est plus qu'un risque puisque c'est avéré, de polluer l'enquête même des policiers. Ils vont sur la scène de crime, ils se saisissent des bandes, des vidéos surveillance pour les visionner et découvrir qu'il y a une voiture qui passe devant l'abribus où cette dame a été assassinée.
Ils doublent le travail de la police.
Voilà, ils doublent et ils polluent. À savoir que ils retrouvent la voiture, ils retrouvent le meurtrier. Il perquisitionne chez lui, ils redescendent sur le parking pour visiter la voiture avec laquelle, dans laquelle il était le matin du meurtre, et ça a failli se terminer assez mal. Oui. C'était quasiment un lynchage. Heureusement, quelqu'un a prévenu les policiers.
C'est ça. Alors, les enquêtes, Marlène Dulaurance, les enquêtes faites par des citoyens, ça vous parle aussi, vous?
Ah ben oui, forcément, des enquêtes. Alors tout comme Pierre, j'ai été amenée dans mes travaux scientifiques à étudier ces démarches de citoyenneté qui se veulent actives, notamment au travers d'un projet scientifique qui s'appelait Cybernétique et qui visait à cartographier les pratiques de cyberharcèlement. Et c'est dans ce cadre de pratiques que j'ai découvert ce qu'était le vigilantisme numérique. Donc voilà. Sous prétexte d'une démarche de citoyenneté active, j'ai été amenée à constater également de nombreuses déviances de collectifs citoyens qui prétendaient faire justice eux-mêmes et qui tombaient, comme c'était indiqué juste précédemment, sur des formes actives de surveillance, de dissuasion.
Alors, qu'est-ce que c'est que le vigilantisme numérique? Parce que ça devient une véritable discipline en soi, Marlène Dulaurance.
Oui. Oui, c'est vrai, reprenons les fondamentaux. Alors, le vigilantisme numérique, c'est une démarche de citoyenneté active, donc c'est mise en œuvre par des acteurs qui sont non étatiques et qui visent à se faire justice soi-même en ligne. Donc, vous avez des gens qui vont se regrouper, des collectifs qui vont se monter. Ils vont identifier une criminalité, c'est-à-dire ils vont identifier des pratiques qu'ils vont trouver comme dangereuses ou en tout cas sortant de la norme pour la société et vont décider par eux-mêmes de mettre en place des actions de surveillance. Ils vont mettre en place des actions pour de dissuasion, voire même de sanctions directes et ciblées.
Comment ça, un exemple de sanctions directes sur Internet?
Par exemple, on peut identifier la personne, on peut faire appel à la communauté pour saturer ses réseaux sociaux, l'identifier, appeler à des raids numériques, à des pratiques de flaming de manière à ce qu'il soit insulté, que ça puisse toucher son environnement professionnel. Et les algorithmes étant tels que lorsque vous êtes identifié ou associé à des accusations, à chaque fois qu'on fera une recherche sur vous, sur Google, sera associé associer la déviance ou le crime que l'on vous associe.
C'est ça, ça va atteindre votre répute, comme vous dites, Pierre Rancé.
Ça, ce sont les jeunes en banlieue qui
oui,
parlent comme ça.
Oui, mais alors, c'est vous racontez une histoire qui est intéressante à plusieurs titres, cette histoire de ce commerçant d'Amiens, qui et beaucoup de commerçants qui ont leur propre système de vidéosurveillance, mais qui ne peuvent pas exploiter.
Alors, ça, c'est un autre problème. En ce qui concerne le cyberharcèlement, il y a effectivement, comme le dit madame, depuis quelque temps, et avec l'amplification des réseaux sociaux, de véritables actions en meute. Oui. Avec des gens qui sont là, vraiment, ce sont de sales gens et qui ont pour objectif de pourrir la vie d'autres personnes. Notamment, ça arrive avec des élus, ça arrive assez souvent à l'encontre de maires dans des petites communes, pour des raisons qui sont à la limite du politique, au point que, comme l'a dit madame, ils balancent sur les réseaux sociaux le nom, l'adresse,
Et parfois des photos même, des photos, des films.
L'adresse de la... du lycée des enfants ou de l'école des enfants, ça peut aller très loin. En ce qui concerne les personnes qui ne peuvent pas utiliser ces images, là c'est on est dans une autre catégorie. La plupart des histoires que je raconte dans mon livre sont des histoires de braves gens entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont des retraités qui sont en butte à des squatteurs indélogeables,
beaucoup de rapports locatifs.
Le contentieux locatif est important parce que si j'ai pu mesurer l'importance de ce phénomène, c'est parce que j'ai rencontré des magistrats qui, à leur niveau, nous disent, nous, devant le tribunal correctionnel, voilà, on voit émerger de plus en plus souvent des affaires comme ça, de gens qui se sont fait justice eux-mêmes. Bon, alors, les commerçants, ça, c'est un vrai problème. Parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a peut-être encore, là, des commerçants qui, dans leur boutique, se font voler. Ça arrive tous les jours.
Oui, ça, des vols...
Oui, mais ça arrive tous les jours. Oui. Et parfois, alors il faut savoir que ce sont des petits commerçants, des commerçants indépendants, ce ne sont pas les grands groupes. Oui. Les grands groupes intègrent ça dans leur chiffre d'affaires. Ces petits commerçants, c'est-à-dire ces commerçants indépendants, alors, dans les boutiques qui irriguent encore le cœur des villes, sont en proie à un vrai phénomène de société et ils sont laissés tout seuls.
C'est le sentiment qu'ils ont.
Mais c'est plus que ça. C'est plus qu'un sentiment, c'est la réalité. Il y a un commerçant qui m'explique qu'il a déposé plainte 10 fois, la 11e fois, il a fallu qu'il aille au tribunal pour qu'elle soit déposée. Elles sont classées sans suite. Il a appelé la police plusieurs fois. Au bout d'un certain temps, ça décroche. Le policier dit, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, j'ai attrapé le gars, il a une doudoune. Bon, vous l'avez attrapé? Oui. Vous avez récupéré votre marchandise? Oui. Laissez-le partir. Voilà comment ça se passe.
C'est une sorte d'impunité. Alors, il y a un autre phénomène que vous avez étudié l'un et l'autre, et notamment vous, Marlène Dulaurand, ce sont la traque des pédophiles. Ça, c'est quand même très, très particulier, Marlène Dulaurand.
Mais oui, parce que, en fait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est vrai que vous pouvez avoir des collectifs citoyens qui, à un moment donné, sont interpellés parce que, ils ont une perception d'inefficacité des forces de l'ordre. Ils ont l'impression que les procédures, elles sont lentes, que même il peut y avoir des limitations, je sais pas, administratives. Et puis ils ont ce désir foncier de justice, de protection des plus vulnérables. Et la plupart du temps,
mais il y a une concentration sur la pédocriminalité. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est considéré comme une sorte de crime de référence, le crime le plus grave aujourd'hui de notre temps.
Oui, parce que la plupart de ces collectifs citoyens ont eu une expérience extrêmement douloureuse avec la pédocriminalité. Par exemple, ils ont été des victimes.
Oui,
ou alors,
c'est des
réactions qui peuvent être assez épidermiques. Ils ont vu des gens dans leur environnement proche qui en ont été victimes. Et de fait, c'est vrai que ça peut sembler... la temporalité de la victime n'est jamais la temporalité de la justice.
Oui.
Et ça peut leur sembler un temps interminable, insupportable, et ils ont envie d'agir le plus rapidement possible. Il y a vraiment un désir de justice, mais malheureusement, ces collectifs citoyens, lorsqu'ils commencent à se mobiliser, ils peuvent être amenés à commettre énormément d'impairs, voire...
Mettre en danger l'honneur ou la sécurité de leurs concitoyens. Pierre,
et voire se mettre eux-mêmes en danger, parce que, en fait, quand indépendamment des erreurs d'identification qualification. Comme Pierre le signalait tout à l'heure dans l'un des exemples qu'il a cité, ils peuvent interférer directement avec des enquêtes qui sont en cours. Et c'est pas parce qu'ils ont l'impression que la police ou la gendarmerie ou la justice n'agissent pas suffisamment vite que en fait elles n'agissent pas.
Bien
et
sûr.
Au final, ça peut complètement les dépasser. Mais des enquêtes beaucoup plus étendues. Alors, peuvent être en cours et ils peuvent corrompre, compromettre des
mois de travail.
On va
prendre l'exemple. On prend l'exemple de Tim Moore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Pierre Rancé, la Tim Moore, parce que c'est quand même paradigmatique de cette
bien sûr.
De cette association.
Juste un petit mot, Antoine, si vous le permettez, en ce qui concerne les commerçants, et ils ne peuvent pas utiliser les images qu'ils ont captées dans leur boutique, mais ils le font. À savoir que ils affichent à l'intérieur de leur magasin ou ils les publient sur les réseaux sociaux des séquences ou des photos où on voit effectivement un voleur s'emparer d'un objet. Ils sont passibles d'un an de prison
interdit.
Et 45 000 euros d'amende. C'est interdit. Et ils le font parce qu'ils en ont ras-le-vol.
Oui,
et ras-le-vol.
C'est ça, voilà.
Mais pour
voilà.
L'instant, personne ne les poursuit. Alors, en ce qui concerne la Tim Moore. Alors, la Tim Moore, c'est un collectif à l'origine, qui est constituée par une dame qui s'appelle, enfin c'est un pseudo évidemment, qui s'appelle Nell Moore, et qui est une dame d'un milieu assez modeste. Elle était femme de ménage, et c'est vrai. Je l'ai rencontrée. Il faut savoir que dans ces collectifs, il y a de tout. Cette dame n'est pas une psychopathe assoiffée de vengeance et de sang. C'est vrai qu'elle a elle-même été maltraitée quand elle était jeune. Et que beaucoup de gens qui participent à ce collectif ont eu, eux aussi, quelque chose à régler avec des affaires de pédophilie ou d'atteinte sexuelle. Alors, ils se sont constitués en collectif. Ils sont très bien structurés et ils pourchassent.
Ils aiment pas que je dise ça. Ils font plus que pourchasser, ils provoquent aussi.
Voilà, non, c'est ça. Ils pourchassent des pédophiles qui, en créant des enfants virtuels, de faux enfants sur Internet, pour appâter des prédateurs. Et ils les appâtent, il y a des échanges qui sont enregistrés, ils arrivent, et là on en viendra à l'usine tout à l'heure, à savoir qui sont ces gens-là, et soit, la plupart du temps, ils les signalent au service de police, au procureur ou à leur gendarmerie, ou parfois, quelquefois, c'est arrivé, c'est vrai, ils provoquent un rendez-vous, ils les filment, et là, c'est la sanction
immédiate
et médiatique.
C'est ça. Alors, c'est ce que vous remarquez d'ailleurs, Marlène Dulaurent, c'est que le vigilantisme numérique, c'est grâce au numérique, ça permet à la fois d'apporter des preuves, de porter plainte, de juger, parce que tout le monde le voit, et de condamné par l'opprobre public. C'est-à-dire, il y a une sorte de justice en raccourci et des justices qui écrasent toutes les phases de la justice, Marlène Dulaurent.
Oui, ça, c'est vraiment un tribunal des foules. Et le problème, c'est que non seulement, en plus, vous pouvez vous mettre en danger, vous pouvez corrompre des enquêtes, vous pouvez vous tromper de personne, vous pouvez vous-même vous retrouver en porte-à-faux parce que en échangeant avec des mises en cause, vous pouvez détenir du matériel pédopornographique, vous pouvez faire de la provocation, du recel. En fait, vous pouvez complètement compliquer une situation qui, à la base, vous vouliez aider. Et c'est là toute la difficulté, c'est que en ne respectant pas le droit en n'ayant pas connaissance de toutes les subtilités du droit, vous pouvez faire tomber une enquête et des mois de travail sur lesquels les autorités de police étaient déjà très investies.
C'est tout à fait exact, ma chère madame, sauf que la plupart du temps, il n'y a pas d'enquête et qu'ils remplissent un vide. Et que soit elles sont classées sans suite, soit il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de vérification qui sont faites, et eux-mêmes disent, et les policiers et les gendarmes avec lesquels ils travaillent parfois, parce que ça on y reviendra, il y a une sorte de porosité entre les services de l'État et ces gens, ces collectifs privés, leur expliquent qu'ils leur apportent des affaires en quelque sorte.
Mais et parfois ils refusent de les prendre en compte dans l'exemple de Tim Moore ce qui agace le collectif de citoyens, c'est que la collaboration Marlène Dulaurent c'est pas toujours très bonne. Ils ont pas la police renacle à prendre en compte les preuves qu'apportent ces collectifs de citoyens.
mettez là le doigt sur le cœur de la problématique. C'est le principe de l'égalité de la preuve. C'est prendre en compte des preuves lorsqu'elles sont collectées en respectant le droit. Au contraire, je pense que les autorités de police, moi je l'ai vu quand j'ai été amenée à rencontrer d'autres collectifs citoyens qui ont structuré leur démarche dans d'autres contextes, mais qui ont structuré leur démarche accompagnée des autorités de police, ils peuvent faire ça de manière très légale, respectueuse et en collaboration et très efficace. C'est lorsque le principe de l'égalité de la preuve n'est pas respecté, en fait, c'est vous avez beau comprendre la démarche, vous ne pouvez pas recevoir les preuves.
Bien sûr.
And now I'd like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I do hope you like it.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fair. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rise, for the tree.
Esprit de justice qui continue de réfléchir sur ce phénomène de l'auto-justice en compagnie de Marlène Dulaurance, qui est maître de conférence et qui s'intéresse au vigilantisme numérique, et puis Pierre Rancé, journaliste, qui vient de sortir un livre intitulé Auto-justice, qui a choisi de nous faire entendre cet air Strange Fruit par Billie Holiday. Alors, vous pouvez dire un mot sur cette chanson? Les auditeurs sont pas tous des anglicistes.
Oui, c'est la chanson emblématique du lynchage des Noirs dans les années 30 au sud des États-Unis. On parle de lynchage.
Bon, et là, vous pensez que ce phénomène du lynchage, il est présent dans la...
Cher Antoine Garapon, vous savez qu'en France, en 2002, c'est pas mieux, il y a eu 3 lynchages. L'un de mes chapitres s'appelle le lynchage parce que je parle du lynchage d'un jeune mineur isolé qui est lynché par un père de famille et ses amis au motif que ce gamin est rentré chez lui, c'est vrai, par effraction la nuit, qu'il est allé dans les chambres et qu'il a retrouvé la chambre de la petite fille, qu'il a fait des attouchements probablement sexuel, puisqu'on a retrouvé son ADN. Fou de rage, le père qui était absent cette nuit-là, pourchasse pendant des jours, enfin pendant au moins 48 heures, dans Roanne, ça se passe à Roanne dans l'Allier, ce jeune mineur jusqu'au moment où il le retrouve. Et il le lynche. C'est l'arrivée des policiers qui permet de lui sauver la vie. Ce qui ne s'est pas passé à l'Escarène, dans l'arrière-pays niçois, l'affaire est toujours à l'instruction, les gens ne sont pas jugés, ils ont d'ailleurs été tous remis en liberté. Un groupe d'individus, 20 ou 30 personnes, pourchassent un homme de 39 ans qui est père de famille au motif qu'il le suspecte d'avoir cambriolé une vieille dame dans le village. Ils le poursuivent avec des chiens, ils le coincent dans un jardin, ils le passent à tabac, ils le lynchent à mort, et d'ailleurs, 2 jours après, il est mort. Donc ça se passe pas dans les années 30 aux États-Unis, c'est ici.
Alors, Marlène Dulaurance, excusez-moi, je vous ai coupé la parole parce que vous, on n'est pas en face, donc il fallait trouver le bon moment pour passer à la musique. Vous étiez en train de nous dire, et je voudrais que vous expliquiez un petit peu plus pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est que les Ozinters, c'est-à-dire ces gens qui font des enquêtes sur Internet.
Alors, les Ozinters, ce sont des gens, ça peut être vous, ça peut être moi, c'est simplement des individus qui sont engagés dans cette fameuse démarche de citoyenneté active et qui vont utiliser un ensemble de techniques pour collecter, pour rechercher de l'information en ligne à partir de données qui sont ouvertes à tous, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles. Et ces données, elles ont été rendues publiques par les internautes eux-mêmes, elles ont été rendues par les organisations, et vous pouvez trouver de l'information sur des moteurs de recherche, sur les gens parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, mettent des images, mettent des vidéos, mais vous avez également des informations qui sont accessibles dans les registres publics, dans des données commerciales, même dans la littérature grise. Et les Ozinters vont puiser dans ces données qui ne sont pas toujours exploitées dans les enquêtes judiciaires pour essayer de trouver des informations. Et moi, je travaille avec ces gens-là.
Et ils trouvent des choses.
Mais on trouve des choses extrêmement probantes. Oui. Mais le tout est de le faire dans une démarche encadrée, structurée, et puis surtout qui respecte le principe de l'égalité de la preuve.
C'est ça. Alors, vous connaissez cette pratique, Pierre Ancé, des Ozinters, c'est les gens qui font les enquêtes, c'est un peu ce que fait Tim Moore pour les pédophiles.
Oui, la Tim Moore, c'est d'ailleurs eux qui m'ont expliqué ce que c'était, parce qu'ils ont deux catégories de personnes, on va dire de personnel dans leur collectif, ceux qui se font passer pour des enfants, qui sont des enfants virtuels derrière leur écran et qui sont les intercepteurs, et puis les enquêteurs, ceux qui font de l'osine, c'est-à-dire qui cherchent, grâce aux éléments, aux informations données par le prédateur, à ce qu'il dit, qui cherche son adresse, son environnement, et qui le trouve. À l'heure où nous parlons, vous et moi, on a une empreinte, on a une identité numérique que tout le monde peut trouver.
Mais bien sûr. Mais alors, la question que je me pose, Pierre Ancé, et on va voir l'évolution. Là, vous avez décrit un phénomène, malheureusement, qui est répandu. Les lâchages en France, c'est pas nouveau, malheureusement, et la légitime défense non plus. Qu'est-ce qui vous permet de dire, Pierre Ancé, au terme de votre livre, que ce phénomène de l'auto-justice est en progression ?
Alors, il est en progression parce que j'ai rencontré de nombreux magistrats, des procureurs de la République et des juges, qui tous m'ont dit, voilà, on voit arriver sur la scène pénale, c'est-à-dire au tribunal, devant le tribunal correctionnel, des affaires de gens qui se sont fait justice eux-mêmes. Alors, se faire justice eux-mêmes, il faut bien comprendre, ça n'existe pas. C'est pas une infraction, c'est pas un crime, c'est pas dans le code pénal, c'est pas dans la loi, ça n'existe pas. Vous êtes sanctionné parce que vous avez tapé quelqu'un, parce que vous avez détruit une maison, parce que vous avez mis le feu pour vous faire justice, mais vous n'êtes pas sanctionné parce que vous êtes fait justice vous-même. Et ces magistrats m'expliquaient qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent, ben voilà, j'ai appelé la police, elle est pas venue, j'ai porté plainte 10 fois. Ça a été classé sans suite, on ne me l'a même pas dit, je ne l'ai même pas su, c'est vrai, je n'aurais pas dû le faire, et j'ai pété un câble. Et ces affaires-là sont de plus en plus nombreuses. Et les magistrats que j'ai interrogés sont inquiets, parce qu'ils me disent, un, nous, on comprend bien que la réponse pénale n'est pas à la hauteur de l'attente de nos concitoyens, les affaires sont classées, on pourra en reparler, il n'y a pas d'enquête. Et ensuite, on est inquiet à double titre parce qu'on s'étonne que ce phénomène ne soit pas plus important.
Et voilà. Alors, Marlène Dulaurance, vous vouliez intervenir?
Oui, en effet, je voulais juste apporter une précision par rapport aux propos de Pierre. Quand il faisait référence à la Tim Moore et notamment aux deux démarches d'Ozinters, la première à laquelle il a fait référence, le fait de se faire passer pour une petite fille ou un petit garçon pour confondre justement le mis en cause, ça c'est ce que l'on appelle de l'enquête sous pseudonyme. Et ça, nous on ne fait pas ça de notre côté. Typiquement, lorsque ce n'est pas cadré, en fait, le SP, c'est une pratique qui nécessite d'être encadrée. En gendarmerie, vous avez des personnes qui passent une certification, un diplôme, qui suivent une formation qui est extrêmement aboutie pour pouvoir faire de l'enquête sous pseudonyme. Ils ne font jamais de l'enquête sous pseudonyme seuls. Ils sont toujours en binôme. Si vous voulez, c'est une pratique qui est extrêmement structurée. Et c'est là où ça peut être déviant quand c'est ressaisi par des collectifs citoyens.
Alors,
mais après,
oui,
je vous en prie.
Non. Je voulais vous poser la même question qu'à Pierre Ancé. Est-ce qu'à votre avis, ce phénomène que vous étudiez, Marlène Dulaurance, des comités de citoyens, est-ce qu'il est en extension? Est-ce que c'est quelque chose qui progresse beaucoup en ce moment?
Alors, je pense que oui, en effet, l'accessibilité à de nouveaux espaces de sociabilité sur Internet permettent en effet de communiquer plus facilement, de se mobiliser plus facilement, et puis d'avoir accès à des outils en open source, qui permettent de démultiplier les efforts. Oui, je pense qu'en effet, c'est une pratique qui on le voit, il y a des plateformes qui existent. On en parlait tout à l'heure, des plateformes de discussion, des plateformes de partage où les utilisateurs, les communautés peuvent se regrouper et puis justement travailler sur des aspects thématiques. Ils peuvent se regrouper autour de la disparition inquiétante de personnes et ils peuvent se mettre ensemble à collaborer de manière totalement participative et agile pour trouver de nouveaux éléments.
Alors, vous parlez de ce phénomène, c'est une nouvelle socialité. Est-ce qu'il y a vraiment un lien social parmi les membres des comités citoyens, ou est-ce que c'est un lien Internet par, un regroupement par opportunisme?
Alors, c'est plutôt l'occasion qui fait le larron, mais c'est vrai qu'il y a des pratiques maintenant, au point que la loi française a évolué, au moins sur ce point-là, avec la loi qui interdit la vengeance pornographique sur les réseaux sociaux, puisque certains avaient le bon goût de balancer sur les réseaux sociaux des débats intimes, des photos personnelles de leur ex-conjoint qui avait eu le mauvais goût de les quitter. C'est issu d'une loi américaine qui s'appelle le revenge porn, et la justice s'occupe de ça, au point que d'ailleurs il y a un service dédié qui existe depuis 2002, ils en parlaient depuis longtemps, ils l'ont fait en 2022, c'est le pôle national contre la haine en ligne qui lutte contre ces tombereaux de haine, de menaces de mort, de menaces de viol, de propos antisémites, homophobes.
Mais qui sont des propos généraux, qui sont des délits en soi, qui ne sont pas des pratiques
d'autojustice. Non, il y a des effets de meute. Oui, si. Des pratiques d'autojustice, ça peut arriver. Je cite dans mon livre l'histoire de ce maire dans un petit village en province, qui est le sujet à des attaques en ligne de la part d'un influenceur d'extrême droite qui s'est associé avec un éleveur local qui a un conflit de voisinage et qui rend le maire responsable. Et ils lui ont pourri la vie avec des vidéos, avec des menaces, avec des mails qui submergeaient sa messagerie.
Donc, c'est ça, c'est un usage de la plateforme et c'est un usage des influenceurs qui est tout à fait négatif, Pierre Ancé, sur ce plan-là.
Oui, bien sûr, c'est effectivement. Alors, fait pour nuire.
Il y a aussi ce relais sur lequel vous insistez beaucoup, qui revient d'ailleurs souvent dans votre livre, ce sont les émissions à grand succès et des vedettes de la télévision.
Alors non, oui, c'est une caisse de résonance. Comme les réseaux sociaux n'ont pas inventé la rumeur, la menace, les propos homophobes, les télévisions et les chaînes d'information continue, puisque c'est à elles que vous faites allusion, ne les ont pas inventées non plus. Il reste qu'il y a une amplification de l'idée que la justice ne fait pas son travail, et à partir de là que sinon qu'on ne peut pas le faire, on peut comprendre qu'on puisse le faire, c'est un peu ce que je vous dis aussi aujourd'hui, mais qu'on peut comprendre qu'on puisse le faire. Et quand vous avez des politiques qui prennent fait et cause pour, par exemple, le père de famille de Rouen dont je vous parlais tout à l'heure, il y a de grands responsables politiques qui sont aujourd'hui nationaux, qui vous disent « mais oui, mais pourquoi pas, qui peut condamner un père de famille qui défend sa fille ?» etc. Donc quand vous avez des hommes politiques, quand vous avez des journalistes, des influenceurs qui disent « attention, là, vous voyez bien que la justice ne vous protège plus, ça va être règlement de compte sur règlement de compte », je dis « attention de ne pas jeter de lutte sur le feu ».
Il y a aussi ce phénomène que vous rapportez, qui est en soi très inquiétant, qui est le fait d'un délogement d'un camp de Rome avec les élus, le soutien des élus locaux.
Avec le soutien du maire. Alors là, c'est particulier parce que les Roms, c'est une population qui est vulnérable. qui sont sujets à toutes les discriminations. L'affaire dont je parle, c'est ils occupent illégalement un terrain, de toute façon ils n'ont pas le choix, et ils sont expulsés assez méchamment, assez brutalement par la population qui est excitée par le maire. Mais à part ça, vous avez, puisqu'on parlait des réseaux sociaux, vous avez eu, c'était en 2019, des informations fake, comme on dit aujourd'hui, qui passaient sur les réseaux sociaux en disant les Roms, on en a vu qui passaient, c'était en région parisienne, dans des vannes blancs, dans des vannes rouges, qui ont enlevé des enfants, et ils se faisaient courser et lyncher.
Alors, là, on parle de dimensions négatives. Marlène Dulaurand, vous, finalement, ce que vous identifiez, c'est l'apparition d'une nouvelle figure entre le professionnel et l'amateur en matière d'enquête de justice.
Oui, tout à fait, parce que si on reprend historiquement, l'engagement des citoyens dans la protection de leur propre environnement a toujours existé. Et l'idée, c'est comment est-ce que ces contributions citoyennes, elles peuvent permettre de les faire participer maintenant à leur propre environnement numérique. L'idée, elle est relativement simple, mais en même temps dans une logique incontournable. Je travaille donc avec la gendarmerie et notamment un major qui s'appelle Jean-Christophe Fédarbe, qui est un NTEC. En gendarmerie, un NTEC, qui veut dire nouvelle technologie, c'est un cyber-enquêteur. Donc c'est un enquêteur qui est en charge uniquement de la cybercriminalité. Depuis de nombreuses années, ça va faire à peu près 7 ans qu'on collabore ensemble sur des projets scientifiques, il n'a de cesse de me parler de l'OSINT et du potentiel que peut représenter tous ces renseignements d'origine source ouverte dans le cadre d'une enquête judiciaire. Quand on a travaillé sur le projet scientifique précédent qui s'appelle Cybernétique, j'ai été amenée à rencontrer des collectifs citoyens, alors certes avec leurs pratiques déviantes, mais j'étais extrêmement surprise de rencontrer des collectifs citoyens, comme je le disais tout à l'heure, qui sont vraiment structurés et qui ont des pratiques d'OSINT extrêmement probantes et puis avant-gardistes.
Non, est-ce que leur niveau technique, Marlène Dulaurand, excusez-moi de vous interrompre à chaque fois, mais on ne se voit pas. Est-ce que leur niveau technique est bon et est-ce qu'il est, j'allais dire, équivalent à celui de la gendarmerie ?
Mais c'est pas qu'il est bon, Antoine, c'est qu'en fait, il est extrêmement bon. Et on ne peut pas comparer. Les gendarmes reçoivent, ou les policiers, puisqu'on travaille également dans le projet Vidoc avec des gendarmes et des policiers en local ici à Bordeaux, ils reçoivent une formation, mais ils sont conditionnés par cette culture organisationnelle qui est de rester discrète, de fonctionner avec des procédures qui sont formelles, des réglementations strictes. Donc, ils ont une approche de l'OSINT qui est bien particulière. Les collectifs citoyens, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Ils travaillent de manière transparente, ils font preuve de beaucoup de réactivité, ils ont plein de sources d'informations qui sont alternatives.
Ils sont plus créatifs, ils trouvent plus de choses.
Alors, c'est pas plus de choses, mais en tout cas, ils ont un regard différent sur l'enquête judiciaire. Et c'est là où on s'est dit avec mon collègue gendarme que ça serait quand même incroyable si on prenait des policiers, on prenait des gendarmes et que ces civils engagés dans cette démarche de citoyenneté active avec leurs expertises, que ça soit en géolocalisation, en reconnaissance faciale. En fait, si on mettait tous ces gens à travailler ensemble dans une démarche un peu d'intelligence collective, est-ce que ça pourrait pas être une opportunité de repenser l'investigation?
Alors justement, Pierre Ancet, ça va un peu, je dis pas à l'encontre, mais c'est peut-être l'avenir de cette...
Ouais, j'espère bien que non. Alors, vous parlez d'intelligence collective pour repenser l'investigation. Mais l'investigation, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est l'espionnage?
C'est la nouvelle technique de l'OSINT. C'est-à-dire que ce qui est très nouveau, c'est que d'après ce que je comprends de ce que nous dit Marlène Dulaurand, c'est que la technique elle-même, elle peut donner lieu à ces pratiques.
Oui, non, mais d'accord, mais pourquoi avoir besoin de collectifs citoyens pour faire ça? Il y a des services de police et de gendarmerie très pointus.
Précisément non. Marlène Dulaurand, je vous laisse répondre à Pierre Rancé.
Ben, en fait, c'est pas forcément rédhibitoire. Oui. Je pense que les collectifs, ou en tout cas pas forcément les collectifs citoyens, au moins les civils engagés dans cette démarche de citoyenneté active, ont des compétences que n'ont pas forcément police et gendarmerie, parce que ce sont des outils complètement nouveaux qui ne sont pas encore déployés en raison de contraintes organisationnelles, des contraintes voilà, de réseaux qu'ils peuvent avoir en interne. Et puis, c'est des pratiques qui nécessitent en permanence de réactualiser ses connaissances. Un gendarme, un policier, il n'est pas spécialisé dans un domaine.
Donc,
un
vous, faites des cours un du soir, vous faites des cours du soir pour à la place de l'État et à la place de la direction générale de la police et
alors,
de la gendarmerie.
Non, alors moi, je me substitue vraiment à personne. Je trouve que, en fait, on peut mutualiser, on peut croiser les expertises pour avoir une approche plus efficace. Et on peut simplement encourager le partage d'informations et de méthodologies. Ça me semble constructif.
Et c'est ça. Et donc, vous assistez à la naissance de comités citoyens qui se structurent non plus pour faire justice eux-mêmes, Marlène Dulaurand, mais pour collaborer, coopérer avec les services de police dans un nouveau type d'enquête qu'on appelle l'OSINT.
C'est exactement ça. L'idée, c'est d'essayer de favoriser un petit peu la rencontre et l'apprentissage mutuel. Le but, en fait, c'est simplement de renforcer l'efficacité des opérations de renseignement, parce que derrière, il y a des familles de victimes. Et si vous mobilisez plein de gens qui ont plein d'expertise et qui ont tous envie de travailler ensemble pour accompagner des familles de victimes, autant profiter de cette opportunité pour le transformer en véritable défi.
Une réaction, Pierre Ancier, je vois que ça vous surprend, voire ça vous choque.
Non, pas du tout. Madame Dulaurand nous explique que c'est positif, mais j'ai quand même une vieille réticence. On a vu ça, je l'explique dans mon livre, au moment du Covid, où les gens étaient devenus les policiers de leur propre comportement, puisque c'est eux qui décidaient, ils se faisaient un papier, pour dire « je sors de telle heure à telle heure ». C'était quand même au roi daté. Bon, bah, c'était une espèce d'acquiescement général à l'autodiscipline, ce qui n'a pas empêché certaines personnes d'appeler le 17, au point que ce service a été surchargé, notamment en région parisienne.
Pour dénoncer les voisins.
Pour dénoncer, c'était la délation. Bon, et ça, c'est resté quelque part. Et moi, je me méfie toujours de tout ce qui est démarche de citoyenneté active. C'est quelque chose qui, voilà, sur lequel j'ai quelques réticences, mais peut-être que je me trompe.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Tell me, did my boy do something rash? Oh, Snooky Dog.
Esprit de justice qui continue de s'interroger sur ce phénomène de l'autojustice et des comités citoyens. C'est pas tout à fait la même chose, même si ça s'en rapproche beaucoup, en compagnie de Pierre Rancé, auteur de Autojustice, et de Marlène Dulaurand, qui est maître de conférence à Bordeaux et qui a choisi de nous faire entendre cette air de Max the Knife par Ella Fitzgerald. Un mot sur ce choix, peut-être, Marlène Dulaurand?
Oui, c'est juste un clin d'œil par rapport à voilà à la thématique de la chanson. Mac the Knife, c'est un gangster assez charismatique, et puis impitoyable, extrêmement difficile à identifier. Voilà, un tueur, un voleur, un séducteur qui a sévi dans l'ombre, et c'était simplement voilà un pour montrer c'est un petit clin d'œil par rapport aux pratiques qu'on aborde aujourd'hui.
Vous vouliez réagir à ce que disait Pierre Rancé. À l'instant, Marlène Dulaurand.
Ben oui, bien sûr que je voulais réagir. Je comprends les réticences et puis les résistances, parce que je les ai beaucoup analysées, ce qui se passe. Et oui, je comprends, en effet, quand en plus on a identifié plein de déviances qui ont montré à quel point, quand c'était pas structuré, ça pouvait être dangereux, je comprends. Ce qui se passe, c'est que la différence, c'est qu'on a structuré tout un projet scientifique qui s'intitule VIDOC et qui vise justement à identifier des osinteurs avec différentes expertises, à collaborer avec des gendarmes, des policiers, avec la justice, à travailler sur, par exemple, des cold cases, donc des affaires qui stagnent, dont on n'a pas encore réussi à identifier ou à résoudre. Et quand vous réunissez ces gens-là, nous, on a fait déjà 3 preuves de concept. À 3 reprises,
Qu'est-ce que vous appelez preuve de concept ?
Oui, preuve de concept, c'est-à-dire que pendant 48 heures, on s'est tous réunis, on a réouvert des enquêtes et on a collaboré ensemble pour voir si l'OSINT pouvait nous permettre de trouver de nouvelles pistes d'investigation. On a eu une première expérience, donc une preuve de concept, une première expérience avec un dossier qui a été porté par la police.
Comme aux États-Unis, vous vous souvenez, il y avait eu des affaires où des jeunes noirs accusés à tort de meurtre avaient évité la chaise électrique parce que des gens comme vous, avec des universitaires et des avocats, il faut jamais oublier les auxiliaires de justice, les vrais, avaient réussi à prouver qu'il était innocent.
Mais c'est exactement ça, si ce n'est que là, la démarche, elle est encore plus aboutie parce que vous avez des universitaires, vous avez des osinteurs, la justice est présente, donc il y a des magistrats qui nous accompagnent, mais vous avez également des policiers et des gendarmes qui sont présents.
Mais donc, ils travaillent ensemble, véritablement.
Et qui travaillent ensemble pendant 48 heures, on est enfermés et on verbalise absolument toutes les démarches d'investigation pour justement éviter d'évoluer de manière cloisonnée. Et au contraire, d'essayer de relancer les investigations en créant, en tout cas en essayant de mutualiser, de partager les informations. Ça renforce l'efficacité.
Pierre Rancé.
Oui. Alors, on n'est plus du tout dans la problématique du vigilantisme dont nous parlions tout à l'heure.
Non, mais c'est quand même la même structure, c'est quand même des comités mêmes instruments.
C'est comme dans les moyens devant la Cour de cassation, il y a 2 branches, vous êtes magistrat. Oui. Alors, la deuxième branche, c'est la société de vigilance. Souvenez-vous de cet attentat en 2019 à la préfecture de police de Paris. 3 fonctionnaires qui avaient été tués. Et à cette occasion, Emmanuel Macron était déjà président de la République. Il avait dit, voilà, il faut construire une société de vigilance.
Voilà, oui, donc. Mais est-ce que justement, ce n'est pas... C'est une question que je pose à tous les deux, parce que c'est une question de fond et que posent ces comités citoyens. Est-ce que vous ne pensez pas que la solution, plutôt que de se draper derrière, son identité professionnelle de policier, de gendarme ou de magistrat, et de tenir à distance, de stigmatiser, de dénoncer cette intervention des citoyens dans la justice, est-ce que vous ne pensez pas, Pierre Rancé, je poserai la la question ensuite à
Marlène. Je ne sais pas, on ne demande pas, à un boulanger d'être policier. Pourquoi il ne faut pas mélanger les gens. On est dans un état de droit, il faut faire attention.
Est-ce que précisément l'évolution aujourd'hui, votre réaction est intéressante, parce que Marlène Dulaurand, est-ce que précisément aujourd'hui, le numérique n'aplatit pas en quelque sorte les compétences, et donc permet cette collaboration.
Madame Laurence parlait d'intelligence collective, je pense que là, avec l'intelligence artificielle, c'est réglé.
Alors, votre réponse, Marlène Delorence. Oui, allez-y, on vous écoute.
Après, il ne faut pas qu'on fasse des raccourcis cognitifs ou que ça en devienne caricatural. Il ne s'agit pas, en effet, à un moment donné, d'intégrer à un groupe de travail un boulanger qui, certes, viendrait avec son expertise de boulanger, mais qui ne correspondrait pas aux attentes, notamment sur une enquête judiciaire. Là, il s'agit quand même d'identifier, parce que il y a quand même un profilage, il y a une sélection, on travaille tous ensemble. Il y a quand même une sélection de gens qui ont une expertise de pointe, malheureusement, que l'on ne retrouve pas forcément dans tous les services régaliens. Quand vous avez des gens qui sont spécialisés sur la reconnaissance faciale, des gens qui sont spécialisés, ce sont des vraies thématiques, des vraies expertises professionnelles, qui sont spécialisés sur la géolocalisation, qui sont spécialisés sur certaines thématiques, en fait, il s'agit simplement de mettre à profit leur savoir-faire, leur savoir-être dans le cadre d'investigations judiciaires pour permettre justement à des gendarmes, à des policiers, mais également à la justice, d'améliorer leurs propres pratiques professionnelles. Il y a une réciprocité, il y a un échange.
Est-ce que vous acceptez cette expression qui fait florès de l'autre côté de l'Atlantique, où on parle de civilian police, d'une police civique? Est-ce que vous acceptez cette expression, Marlène Dulaurence?
Oui, alors après, il faut voir le cadre dans lequel elle est utilisée, mais la participation des civils aux missions de police, leur implication dans différentes tâches, dès lors qu'elles sont encadrées et puis que vous êtes formés et que vous en saisissez et les tenants et les aboutissants, mais je pense qu'en effet, on peut repenser différemment le rapport aux autorités de police, et puis en plus, ça permet la contribution citoyenne, elle peut sensibiliser différemment les gens pour leur permettre de comprendre qu'ils peuvent être acteurs de leur propre stratégie de sécurité. En fait, c'est une approche qui est beaucoup plus inclusive lors qu'elle est encadrée.
Alors, est-ce que Pierre Ancé, après cette enquête que vous avez fait, encore une fois, pendant plusieurs mois en France sur l'autojustice, est-ce que vous pensez, quelles sont les solutions? Est-ce que vous pensez d'abord que ce nouveau rapport de la police avec des institutions, avec le public, n'est pas infiniment nécessaire? Quelle piste
vous voyez? Mais je ne pense pas que le public soit concerné par ça et que ça l'intéresse. Alors effectivement, il y a des travaux comme mène Madame Delorence à Bordeaux qui sont très intéressants parce que ça permet de faire avancer l'investigation. Mais ce que souhaite le citoyen, c'est quand il a un problème, c'est que la police intervienne quand il appelle la police pour un cambriolage et que sa plainte ne soit pas classée sans suite, enquête.
Vous constatez vous-même que les services sont totalement engorgés.
Ils sont plus qu'engorgés. Aujourd'hui, il ne faut pas dire que la justice fonctionne mal. La justice ne fonctionne pas. La justice ne fonctionne plus. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le comité, c'est le rapport du comité des états généraux de la justice. C'est-à-dire des magistrats.
Elle condamne des gens quand même.
Mais alors attention, de quoi vous parlez? Dans l'affaire de Mazan, il y a eu des juges d'instruction, il y a eu tous les moyens pour qu'il y ait un procès, et c'est normal. Dans les affaires antiterroristes, il y a eu tous les moyens, c'est normal. Hier, dans l'affaire de la petite Louise, il y a eu 80 policiers mobilisés pour arriver à résoudre ce crime horrible. Maintenant, pour ce qui concerne la vie de tous les jours de tous les gens qui sont, pour la plupart, à part, il y a de sales types, des gens, des braves gens, des honnêtes gens, il n'y a plus, l'État n'est plus là. Donc, le pacte social est rompu, et la meilleure manière de mettre en péril l'État de droit, c'est de ne pas l'appliquer.
Alors, Marlène Dulaurand, qu'est-ce que vous répondez à ce discours bien sombre sur le fonctionnement de nos institutions?
Oui, je pense qu'il faut il faut quand même un petit peu plus nuancer les propos. Je vous assure, alors, je suis universitaire, mais j'évolue au quotidien aux côtés des gendarmes. Je travaille également avec les policiers et la justice en local. Je ne peux pas laisser dire que ce n'est pas vrai. Il y a des actions, ils accompagnent les victimes au quotidien. Ils font un travail formidable, une abnégation. En fait, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Ce n'est pas vrai. Qu'il y ait une marge de progression, c'est évident. Et c'est justement en tentant de nouvelles initiatives pour essayer d'accompagner différemment, de repenser différemment les méthodologies qu'on peut essayer en effet de construire quelque chose de plus positif. Mais bien évidemment qu'au quotidien, il y a des actions qui sont menées et qui sont extrêmement profitables, bénéfiques et qui aident nos concitoyens au quotidien.
Alors, bien sûr, que localement, il peut y avoir encore, et c'est tant mieux, des policiers et des magistrats dévoués. Tous les grands magistrats, à l'occasion des rentrées solennelles, c'est-à-dire quand les tribunaux accueillent les politiques pour la nouvelle année civique, on dit que la justice allait dans le mur et qu'elle n'avait plus les moyens de travailler. Aujourd'hui, il y a 3,5 millions de plaintes qui sont déposées chaque année et qui, pour lesquelles les services de police et de gendarmerie n'ont pas les moyens. Ces 3,5 millions de plaintes annuelles viennent grossir le stock résiduel de 7,7 millions plaintes qui ne sont pas traitées. Et là-dedans, il y a des plaintes pour vol, pour viol.
C'est ça. Alors, est-ce que...
Pardonnez-moi, je termine. La semaine dernière, le procureur de Melun, en région parisienne, a annoncé, il était mandaté par le ministre de la Justice, que désormais, lui, à Melun, dans sa juridiction, au tribunal judiciaire de Melun, il allait classer les enquêtes, classer les plaintes sans faire d'enquête.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire qui transparaît un peu dans votre livre, Pierre Rancé, c'est-à-dire entre les atteintes aux personnes, ou pour lesquelles les services de police et de gendarmerie sont toujours très mobilisés, et les atteintes aux biens, comme les vols?
Non. J'ai fait la démonstration, il y a une affaire où une famille et par deux fois la jeune fille...
Oui, mais c'est une affaire.
Ok, mais j'ai pas dit que c'est une enquête. Je ne suis ni sociologue, ni universitaire. C'est une enquête sur le terrain. J'ai rencontré de nombreux magistrats. Voilà ce qu'ils m'ont dit et ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Il y a aujourd'hui un vrai problème parce qu'il y a une absence de réponse de l'État.
Alors, Marlène Dulaurand, est-ce que vous travaillez sur ce lien entre sécurité et numérique? Est-ce que vous pouvez nous donner un motif d'espérer avant la fin de cette émission?
Je crois que, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est que lorsque les initiatives sont pensées collectivement, et même si pour le moment elles sont locales, et j'espère qu'elles pourront avoir un autre rayonnement.
Mais elles pourraient être généralisées, elles pourraient s'étendre.
Ça serait formidable dès lors qu'une méthodologie est construite et que elle peut ensuite être déclinée parce qu'elle est opérationnelle et adaptée à divers types d'enquêtes. Ça nécessite encore des travaux pour ajuster, mais à partir du moment où, sur des dynamiques locales, vous avez la justice, la police, la gendarmerie, des civils avec leur expertise et des chercheurs qui collaborent tous ensemble, si ça, c'est pas l'exemple parfait quand même d'un espoir à saisir, je ne saurais pas comment finir.
Marlène Dulaurand, est-ce que vous avez remarqué une évolution dans la perception des institutions, alors du côté des comités de citoyens et des citoyens qui participent?
Ah mais totalement, parce que dès lors que vous comprenez les contraintes auxquelles sont soumises les contraintes réglementaires, auxquelles sont soumises justice, policiers, gendarmerie, qu'on vous les explique et que vous saisissez à quel point elles peuvent vous freiner dans votre travail, ça vous permet de réinventer un petit peu ce que Bourdieu disait, de bricoler, c'est-à-dire de ressaisir des opportunités, non pas pour contourner, mais pour essayer de proposer quelque chose de différent.
Alors, proposer quelque chose de différent, Pierre Rancé, je reviens à la charge, si je peux m'exprimer ainsi, concernant les solutions, les pistes de réflexion. Vous dressez un tableau sinistre, sombre, que les magistrats ont rappelé, effectivement, dans les dernières séances de rentrée. C'est pas la première fois qu'ils le font. Dans quelle piste, dans quelle direction faudrait réfléchir? Dans quelle perspective pour sortir de ce blocage?
On a supprimé tout ce qui pouvait accompagner la vie quotidienne des citoyens. La justice, la police de proximité, oui. On a supprimé des effectifs de policiers et de gendarmes depuis des années et des années. On engorge les commissariats et les gendarmeries avec des plaintes qui ne seront jamais traitées.
Est-ce que c'est pas précisément les services de proximité, la police de proximité, le community policing, je le dis en anglais, ça fait toujours plus chic, mais en fait, c'est quand même ce qui existait avant Sarkozy. C'est le président Sarkozy qui a détruit cette police.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Et donc, c'était une de ses fonctions, une des fonctions de cette
d'être
police.
Sur le terrain.
Exactement.
Et d'assurer comme les éducateurs pour les jeunes de banlieue.
Exactement.
Après, on s'étonne qu'ils pourrissent sur pied, mais il n'y a personne pour s'en occuper.
Et ça, c'est pas pour vous le numérique qui pourra réveiller cette proximité sociale qui existait entre les policiers.
Malheureusement, le numérique, là, pour l'instant, alors c'est toujours pareil, c'est comme la bombe atomique, enfin, c'est comme l'atome, ça peut détruire et puis ça peut faire progresser l'humanité. Là, les réseaux sociaux, pour l'instant, ne sont qu'un amplificateur. On le voit dans certains départements proches de la région parisienne de règlement de comptes où les jeunes se font justice eux-mêmes en organisant des chasses à l'homme et où il y a des morts, des gamins de 14 ans, de 15 ans qui laissent la vie.
Alors il faut donc donner plus de place, Marlène Duleurand, au procès, au projet Vidoc.
Je crois. Et puis Pierre, il faut venir à Bordeaux qu'on vous montre
exactement.
Un petit peu ce qu'on fait pour cette lueur d'espoir.
Exactement, voilà.
Avec plaisir.
Donc la mission se terminera sur une perspective de voyage. Merci beaucoup à tous les deux. Pierre Rancé, je rappelle le titre de votre livre, Autojustice, enquête sur un inquiétant phénomène qui gagne la France. Esprit de justice est terminé pour ce soir. À la technique, il y avait François Saint-Jour. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la préparation, Laurence Genepin. Une émission d'Antoine Garapon.